Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, Marianne Paquette derrière le micro, heureuse de vous retrouver pour cette émission de C'est bon pour la santé. Vous êtes sur Canal M, on est ensemble pour les 30 prochaines minutes. Vous dire qu'au Canada, 24 000 jeunes, des enfants, des adolescents vivent avec une forme d'arthrite juvénile. C'est une maladie qui est extrêmement douloureuse, qui peut l'être du moins handicapante aussi pour la personne touchée et qui a des effets, on l'imagine, sur le développement de l'enfant. L'arthrite juvénile, c'est aussi une maladie qui est incomprise parce qu'elle est souvent associée au vieillissement, ce qui n'est pas le cas dans le cas de l'arthrite juvénile. Mars, c'est le mois de cette maladie, une période pour en parler, pour sensibiliser le grand public, mais aussi pour rappeler aux parents, aux familles concernées, aux enfants, que c'est possible de mieux vivre avec l'arthrite juvénile. Et pour ce faire, je vais discuter avec Simone Cavano, qui, elle, à 8 ans, a reçu un diagnostic d'arthrite juvénile. Elle a maintenant 23 ans. Elle étudie en droit à McGill et pleine de projets très, très inspirantes. Je pense qu'elle est porteuse d'un très beau message. Elle sera accompagnée de Diane de Bonneville. Elle responsable des communications à la Société de l'arthrite. Également, vous parlez d'une réalité qui est très présente dans notre société vieillissante, celle de l'isolement des personnes âgées. Une réalité qui est bien évidemment triste, mais très présente, très réelle. Il y a plusieurs causes à cette solitude, plusieurs impacts aussi sur la santé des individus, et ça, on en a souvent parlé dans le cadre de l'émission. Toutefois, il existe des méthodes pour briser cet isolement. Ça, on n'en parle pas assez souvent, hein, des méthodes de qu'est-ce que l'on peut faire. Et la musique, ben, c'est une voie à suivre. La Société pour les arts en milieu de santé offre des concerts aux patients résidents d'établissements de santé, et ce, partout au Québec. Le 6 avril prochain, ils vont tenir leur concert bénéfice annuel. J'y étais l'an passé, ce qui m'a permis, d'une part, de pouvoir bénéficier et de comprendre, en fait, à quel point les usagers bénéficient de la SAMS, mais aussi de voir à quel point ça engendre le bonheur, la musique. J'en parle avec l'un des porte-parole de cette troisième édition, Dr. François Reeves, cardiologue d'intervention au CHUM et à la Cité de la Santé, auteur et conférencier. Dr. Reeves, bonjour.
Bonjour.
D'entrée de jeu, je pense qu'on doit se le dire, les centres de santé, que ce soit des CHSLD ou encore en milieu hospitalier, là, on associe rarement ces lieux-là à la joie de vivre, au bonheur. Et pourtant, les 600 concerts qui sont offerts par la SAMS, et ce, de façon annuelle, ça contribue à ça. Et pour vous, Dr. Reeves, c'est une source de bonheur et ça a des impacts sur les patients.
C'est certainement une initiative plus que louable d'amener des musiciens en chair et en os dans des institutions où on a des particulièrement soit des soins prolongés ou voire même des soins palliatifs. Parce que de toute façon, la musique, c'est une part inhérente de la vie. Okay? Oui. Des enfants sur la musique, ça s'agite, ça danse. Toutes les peuplades primitives ont tous des rituels. Il n'y a pas une civilisation qui n'a pas une musique. C'est de base pour l'être humain, avant même des grandes explications physiologiques, comme c'est faire, par exemple, le Grams avec maintenant l'imagerie cérébrale. On voit que spontanément, instinctivement, on a besoin de musique. Ça fait partie de nous. Et puis, lorsqu'il y a des gens qui sont dans des situations plus difficiles où ils perdent le contrôle sur leur environnement, puis ça, c'est à quel moment? C'est lorsqu'on tombe malade, lorsqu'on est hospitalisé. Et surtout, bon, si vous rentrez pour une cheville cassée puis vous sortez le lendemain matin, ce ne sera pas un impact significatif. Mais pour les gens qui sont avec des séjours prolongés ou qui sont dans des résidences de convalescence à récupérer soit d'un cancer ou d'un infarctus ou encore des soins prolongés où c'est des gens qui peuvent tout simplement pas retourner à la maison. Mais à ce moment-là, c'est vraiment casser l'isolement de ces gens-là que d'amener une présence physique de musiciens pour échanger de l'art à des gens qui souffrent et puis comme ça, faire en sorte qu'on réintroduit de la vie de l'activité, du plaisir, du bonheur dans leur environnement.
Oui, et que l'on humanise les soins, ça, c'est quelque chose pour vous d'important, François Reeves?
Ben, à tout point de vue, je veux dire, comme médecin, on le voit, on l'enseigne, on en témoigne, on a des exemples. Et puis, je peux vous dire, quand on est de l'autre côté, soit qu'on a des proches malades, soit quand on est soi-même malade, tout ce qu'on peut faire, soit dans un hôpital ou une clinique, on peut jamais être assez humain. Il n'y a pas de limite pour ça. Puis toutes les petites choses qu'on peut faire pour ces passages obligés à travers soit la maladie, soit la convalescence, soit la souffrance physique, on ne peut jamais être assez humain. Et tout ce qu'on peut faire dans notre milieu de façon à optimiser cette humanité, puis cette humanité-là, elle passe par des vecteurs qui sont universels. Puis ces vecteurs universels-là, ben, je pense que la musique en est certainement un.
Ce qui est bien avec la musique également, c'est que c'est un langage qui est universel, qui dépasse les âges, les générations, qui dépasse le langage là, en soi, le langage parlé. Et ça peut avoir des bienfaits d'une part sur le patient, l'usager, mais également, j'imagine, sur toute l'équipe médicale.
Ben, à tout point de vue, c'est certain. Je me rappelle, moi, la première fois où j'ai été confronté très directement à un événement comme ça, c'est-à-dire de la musique en plein milieu de santé, c'est lorsque j'étais étudiant en médecine. Ils nous avaient demandé d'aller faire littéralement du bénévolat lorsqu'il y avait eu une grève. Je me rappelle plus de quel secteur de la santé, mais c'était vraiment assez difficile à cette époque. Quand je remonte, je l'ai étudié en médecine, là, c'est pas hier. Je me rappelle, parce que je me demandais bien qu'est-ce que je ferais, mais à tout hasard, comme j'allais dans un département de psychiatrie, puis c'est pas un secteur particulièrement actif, comme par exemple un département de chirurgie cardiaque, là. Donc un secteur de psychiatrie, j'avais apporté ma guitare. Je savais jouer de la guitare classique, beaucoup mieux à l'époque que maintenant. Et puis, à un moment donné, une des infirmières qui était là me dit, « Ben, voulez-vous nous faire une petite demi-heure de vos pièces? » Puis ils étaient tous réunis là. Puis ils étaient l'air de... Puis je suis pas un musicien, là, moi. Imaginez avec un vrai musicien. L'air de bonheur qu'avaient tous ces gens-là, au point tel que quand j'avais à peu près fini mon petit répertoire, ils m'ont demandé de recommencer. Et puis, il y avait tant pour les préposés qui s'arrêtaient pour ce moment-là, pour les infirmières. Vous voyez, tu vois pas ça aux soins intensifs, là. Mais dans des contextes où on est hospitalisé longtemps, je pense que c'est une valeur ajoutée extraordinaire. Et il y a des moments où, en tout cas personnellement, où je connais beaucoup de gens qui ont eu à traverser des épreuves physique, psychologique ou les deux à la fois, puis qui s'accrochait vraiment des fois à des airs de musique pour un peu passer un baume. Tu sais, il y a une très belle phrase de Wagner qui disait « La musique commence là où les mots arrêtent ». Et ça reprend effectivement l'universalité de ce langage-là, puis de savoir, moi ça a toujours été mystérieux, pourquoi, est-ce que quand vous entendez tel air, invariablement, puis universellement, ça rend triste, ça rend mélancolique. Vous entendez un autre air, vous voyez une fanfare. Vous entendez un autre air, vous voyez un chant d'amour. Donc, il y a une expressivité qui est bien au-delà de tout. Et ça va même chercher plus loin au point de vue des fondements neuropsychologiques que l'on a. Et c'est pour ça maintenant que de plus en plus la musicothérapie est appliquée. C'est pour ça que de plus en plus le Grams fait des études pour associer harmonie, vibration, parce que le cerveau, finalement, c'est rien qu'un un océan de vibrations qu'on peine encore à commencer à connaître, à savoir c'est quoi le tréfonds de l'âme humaine. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez un lien direct avec la mélodie, avec la musique. Donc, ce pourquoi... Et qui plus est, c'est que ce que je trouve important dans la démarche du SAMS, c'est que c'est d'avoir la présence physique de ces gens-là qui passent directement le message. C'est pas de la musique d'ascenseur dans un iPhone. C'est la présence physique d'un musicien qui se déplace, puis on entend, on voit directement toute la technique. Et ça, c'est encore plus vivant dans une pièce ou dans une salle de garde ou dans une salle de réunion ou dans une chambre de patient. C'est quelque chose qui est remarquable. Moi, je sais qu'il y a des musiciens qui m'ont conté que, notamment, il y avait pour eux-mêmes des moments extrêmement émouvants, notamment aux soins palliatifs, où ils ont accompagné quelqu'un comme ça, et que, finalement, ça a été en toute sérénité qu'un des patients est décédé pendant la pièce musicale. Puis moi, personnellement, si j'avais à mourir, parce qu'on ne sait pas comment on va mourir, mais si c'est entouré de la plus belle musique du monde, je pense que c'est un souhait que je peux faire à tout le monde.
Oui, ces musiciens deviennent musiciens, ils le sont, mais deviennent également des accompagnateurs. Dr. Reeves, vous êtes cardiologue d'intervention. Est-ce qu'il y a des études scientifiques à savoir que la musique a des effets sur la santé cardiovasculaire?
De façon, ben, je vous dirais, sur la question générale de la baisse du stress, de la baisse de l'anxiété, de la baisse de l'angoisse, parce qu'on sait que tous ces facteurs-là, s'ils sont chroniques, s'ils sont sévères, ça peut nous affecter de bien des façons, dont cardiovasculaires, entre autres. Donc, si on prend pour thème que c'est reconnu que des séances de musique, et ça, d'ailleurs, il y a bien des gens qui le font spontanément sans prescription. Ils traversent des malheurs, puis en écoutant de la musique, ça les recentre. Et là, ça va plus loin que ça. On voit même des études faites chez des patients en Alzheimer où en faisant chanter, en faisant écouter des chants typiques de leur enfance, des mélodies typiques de leur enfance, que tout à coup, il y a des pans entiers de mémoire qui se raccrochent à ça. D'ailleurs, on dirait que dans le vieillissement, la musique est quelque chose d'extrêmement puissant. Puis moi, je vous dirais, pour exemple, il y a deux concerts auxquels j'ai assisté. Un, c'était Yehudi, puis c'était deux musiciens en fin de carrière, donc Arthur Rubinstein et Yehudi Menuhin. Des concerts à la toute fin de leur vie, ça fait quelques années de ça. Et je me rappelle d'avoir vu ces deux personnes-là arriver sur scène, mais vraiment, tu sais, des vieillards. Là. Je me rappelle Menuhin avec un petit pas, c'est tout juste... On aurait dit qu'il était à deux doigts d'avoir besoin d'un déambulateur. Il y avait nettement plus de 80 ans. Et au moment où il prend son archet, l'appuie sur les cordes et commence à jouer, en une fraction de seconde, il y avait 22 ans. C'était ahurissant. La même chose pour Rubinstein. On le voit arriver au piano, tout juste, il n'était pas soutenu. Il s'installe et les doigts partent. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement puissant aussi dans le maintien d'une activité cérébrale, dans le maintien d'une d'une acuité cérébrale et même physique, parce que ce violoniste et ce pianiste ont besoin de leurs muscles et tout. Puis c'était incroyable de voir comme ça les avait préservés étonnamment jeunes, malgré un âge avancé, malgré évidemment les outrages des années sur un corps rendu octogénaire. Moi, ça m'avait hautement impressionné de dire « Batèche, je continue à faire de la musique, ça va te sauver, ça!
» Donc, la musique adoucit les mœurs et rajeunit les cœurs, on pourrait ajouter ces quelques mots à la maxime. Docteur Reeves, je veux vous parler d'une deuxième passion que vous avez parce que ça me semble complètement fascinant et extrêmement novateur. Après la musique, l'environnement vous est très cher aussi. D'ailleurs, vous êtes à la tête de cette chaire de cardiologie environnementale à l'Université de Montréal.
On va dire parce que sinon le recteur va m'appeler pour me dire que c'est un faux CV. Je travaille à l'élaboration d'une chaire, mais ce que je suis donc un agrégé de médecine avec une affectation conjointe au département de santé environnementale. Je m'intéresse donc à la cardiologie environnementale et j'ai le projet de monter une chaire. Sinon, je vais passer pour un Gérald Darroze. Attention, faisons des nuances, madame.
Toutefois, l'écocardiologie, ça existe, mais c'est pas très, très connu du grand public. Qu'est-ce que c'est?
Mais en fait, c'est une application à une spécialité d'une spécialité plus vaste qui existe depuis Hippocrate. Ça s'appelle la santé environnementale, à savoir qu'on voit qu'il y a déterminants de l'environnement, qui affectent votre santé. Alors, je vous donne un exemple le plus grossier qui soit. Vous êtes exposé à de l'amiante toute votre vie, vous développez un mésothélium, un cancer du poumon, bingo. D'accord? Maintenant, on s'est rendu compte qu'en dehors de ces cas hurlant, là, de parce qu'il y a une cause, une maladie, c'était facile à déterminer, qu'il y a beaucoup d'autres maladies qui sont tributaires de notre environnement. Et en fait, on va aller plus loin que ça, l'Organisation mondiale de la santé a publié en 2014 que selon le relevé, il y avait un minimum de 7 millions de décès par année, des décès excédentaires, c'est-à-dire qui n'auraient pas dû arriver, qui étaient attribuables à la pollution de l'air, faisant de la pollution de l'air, le premier facteur de risque sur la planète. Puis ça, 7 millions de décès excédentaires en 2014, c'était un décès sur 8. Moi, j'avais commencé à publier donc des notions là-dessus où je me disais, écoute, est-ce que l'environnement peut causer infarctus et AVC? Puis si on m'avait posé la question il y a, disons, 10 ans, parce qu'on m'a jamais expliqué ça, moi, à la faculté de médecine, à l'époque, quand je faisais mes cours. Ben, si on m'avait expliqué ça il y a 10 ans, j'aurais dit, bon, peut-être un petit peu, 1%, 2%, pour finalement réaliser en plongeant dans la littérature. Puis c'est pas des recherches à moi, hein. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches cliniques, en application directement dans le laboratoire de cathétérisme, nouvelles molécules, nouveaux stents, nouvelles technologies. Mais j'ai jamais fait, ben, j'ai commencé de toute façon depuis quelques années, donc, à publier dans le registre de la santé environnementale. Mais quand j'ai plongé dans cette littérature que les médecins cliniciens, je vais vous le dire, ne lisent pas parce qu'on a tellement d'ouvrages que c'est difficile d'aller regarder dans tout ce qui se fait ailleurs, pour réaliser que l'environnement, c'est tributaire d'une énorme part de nos maladies, puis particulièrement dans le monde industrialisé, mais maintenant tout autant dans les pays émergents. Alors, donc, ces facteurs de risque-là, j'ai fini par les identifier puis en faire finalement un peu de replacer les causes de maladies cardiaques en trois choses. Il y a vous, vos gènes, votre tendance ou pas à faire du diabète, l'hypertension, du cholestérol. Deux, ce que vous faites, vos habitudes de vie, ça c'est la sédentarité, l'obésité, le tabac. Mais trois, où vous êtes, et ça concerne l'urbanisme, l'environnement et le type d'alimentation plus ou moins industrielle. Puis finalement, dans les déterminants majeurs d'une cité, si elle se veut cardioprotectrice, elle doit reverdir, elle doit, oui. Parce que l'arbre, si on peut en parler longtemps, est un vecteur important de santé, de milieu de vie. Deuxièmement, on doit éradiquer les combustibles fossiles pour éliminer tous les produits polluants, SO2, NO2, particules fines, composants, tout ce qui nous empoisonne l'air que nos arrière-arrière-grands-parents ne respiraient pas. Puis trois, éradiquer ce que j'appelle les nano-agresseurs aériens, c'est-à-dire tous les additifs inutiles. Il y a beaucoup de publications ces jours-ci, beaucoup d'articles sur les sucres, sur les gras et tout. Puis c'est vrai, effectivement, que la nourriture ultra-transformée d'Amérique du Nord amène des maladies. Donc, quand on joue sur ces vecteurs-là, on peut s'attendre à faire baisser significativement le taux de mortalité cardiovasculaire. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que il y a 150 ans, l'infarctus était une maladie plutôt rare. Mm-hmm. Alors que maintenant, c'est le premier tueur. Et puis, c'est pas nous qui avons tellement changé, sûrement pas nos gènes, mais toute la question, bien sûr, des habitudes de vie, mais aussi du milieu, parce que des fois, il y a des gens qui disent, je comprends pas pourquoi j'ai ça, je fais comme tout le monde. Mais oui, mais on bouffe la même saloperie que tout le monde, si vous me passez l'expression. On respire le même air que tout le monde. Et puis, lorsqu'on s'est rendu compte des chiffres, de l'impact, il y a une grosse étude aux États-Unis, notamment, 6 villes suivies pendant une quinzaine d'années, le taux de mortalité cardiovasculaire entre la ville la plus polluée et la moins polluée différait de 25 %.
Et pour en savoir davantage, on pourra lire « Santé cardiaque et environnement, planète cœur », en fait, le titre de votre livre paru aux éditions du CHU Sainte-Justine. Je le répète, Dr. Reeves, c'est complètement fascinant. Je reviens au SAMS 6 avril. Est-ce qu'on aura la chance de vous voir sur scène jouant de la guitare classique?
Non. Je vais laisser ça à des professionnels. Moi, c'est modestement dans le sous-sol que ça se passe, mais on va laisser des musiciens. Puis d'ailleurs, ils sont de tout azimut, de l'OMS. L'OMS, là, je suis rendu en médecine. L'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal. Il y en a de l'Orchestre symphonique de Laval, Trois-Rivières, Québec et plusieurs autres formations. Et on va, c'est eux qui vont présenter un florilège dans une soirée bénéfice qui va avoir lieu à la salle Bourgie, salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts. C'est le 6 avril. Il y a un cocktail à 18h pour les plus généreux donateurs et pour ceux qui assistent au concert même, c'est à 19h30. Donc moi, j'encourage tout le monde à, premièrement, c'est un excellent spectacle, c'est une très belle salle, c'est une belle soirée, premièrement. Deuxièmement, c'est une cause très, très, très noble parce que ces organismes communautaires qui sortent un petit peu des sentiers battus ont besoin de l'aide du grand public parce que dans ces temps-ci, on dirait que les gouvernements ont fort à faire pour tenir simplement le bateau à l'eau. Je crois que la contribution des individus, et puis je sollicite plus particulièrement le corps médical qui ont des sous, le corps infirmier qui est partie prenante de ça, de participer à cette soirée, de faire en sorte qu'il y ait plus de 600 prestations musicales par des professionnels qui se déplacent et qui vont rencontrer les gens dans leur milieu pour leur donner quelques heures de bonheur.
Mais qui amène bonheur et accompagnement aussi. Docteur François Reeves, vous êtes cardiologue d'intervention au CHUM et à la Cité de la Santé, auteur, conférencier. Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un de fort inspirant. Merci beaucoup et bon concert le 6 avril.
Vous êtes trop gentil et effectivement, j'aimerais bien que cette salle soit bien pleine le 6 avril. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Bonjour.
Simone Cavano, vous êtes porte-parole des jeunes atteints d'arthrite juvénile. Et Diane de Bonneville, responsable des communications à la Société de l'arthrite. Heureuse de pouvoir mettre enfin un visage sur la voix. On se parle souvent, Diane.
Oui, merci.
Bienvenue à vous deux. Je veux commencer avec Simone. Mars étant un mois important pour l'arthrite juvénile, vous en êtes la porte-parole. À 8 ans, vous avez eu ce diagnostic d'arthrite juvénile. Mais là, vous semblez en pleine santé, pleine de projets. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu rémission? Parce qu'on ne peut guérir de l'arthrite juvénile. Ça s'est passé comment pour vous, ce parcours-là, Simone?
Bien, c'est exact. On ne peut pas guérir l'arthrite juvénile en ce moment. Pour moi, j'ai été assez chanceuse de trouver un médicament qui fonctionne assez bien pour moi, mais c'est vraiment pas le cas pour la plupart des enfants atteints d'arthrite. Et en fait, même aujourd'hui, j'ai un peu mal. J'ai de la douleur aujourd'hui parce que j'ai pas dormi très bien hier soir. Donc, justement, je pense que ça, c'est important à considérer. J'ai été en chaise roulante longtemps, oui, pendant que j'étais enfant, mais l'arthrite est un peu une maladie invisible, donc je parais en santé, je parais bien, et souvent c'est vrai, mais parfois c'est pas vrai, et ça fait partie du défi de l'arthrite, surtout pour les enfants qui sont pas à l'aise de dire tout le temps à tout le monde qu'ils sont en douleur, pourquoi ils peuvent pas jouer en éducation physique, pourquoi ils boitent aujourd'hui. Mm-hmm. En fait, c'est encore plus difficile pour eux d'avoir à expliquer cette douleur-là à leur professeur aussi à l'école.
Et lorsqu'ils arrivent à le nommer, souvent, l'arthrite étant associée au vieillissement, ben, on devient incompris. J'imagine, vous avez vécu ce type de préjugé-là, Simone.
Oui, absolument. On dit souvent, c'est une maladie de vieux. Comment oui, ça, vous avez ça? Mais oui, ça fait partie du défi pour les enfants. Surtout, le pire pour moi, c'est quand les adultes et les professeurs ne comprennent pas la maladie, parce que c'est très important pour le développement de l'enfant puis l'apprentissage de l'enfant. Qu'ils aient un entourage qui comprend bien. C'est un peu plus normal pour les enfants qu'on oui, leur explique ben oui, c'est quoi la maladie exactement, mais en fait, ça touche beaucoup d'enfants ici au Québec.
Lorsqu'un enfant est malade, évidemment, ça a des répercussions sur toute la famille, la fratrie aussi, quand frères et sœurs il y a. Pour votre famille, pour vos parents, ça s'est passé comment, Simone?
Mais oui, ça a été très difficile. La douleur chronique, je pense, en général, dans les familles, c'est difficile à vivre. Mais surtout quand on parle de la douleur chronique pour les enfants, c'est invisible et ça touche à tous les aspects de la vie en famille. Je pense pour mes parents surtout, c'est difficile de voir son enfant souffrir,
ouais,
surtout lorsqu'on peut rien y faire. Et en fait, justement, vous avez dit, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 8 ans, mais en fait, j'ai commencé à avoir les symptômes à l'âge de 6 ans.
Mm-hmm.
Donc, ça veut dire 2 ans d'attente où on ne savait pas ce qui se passait. Et même après qu'on a eu le diagnostic, ça a pris plusieurs années de trouver un médicament qui fonctionnait même un peu.
Mm-hmm.
Donc, oui, c'est très difficile.
Mais malgré tout, vous arrivez à dire que l'arthrite juvénile a eu un impact positif sur votre développement et votre parcours. Ça, on appelle ça être positif, hein, dans la vie.
Oui, mais c'est absolument vrai et c'est pas des blagues, c'est vraiment pas ça pour faire beau. Je pense que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu cette douleur-là et j'avais pas vu d'autres enfants souffrir comme moi. Je pense que ça crée un sens d'empathie assez élevé aussi. C'est ce que je vois dans les, ouais, autres enfants atteints de la maladie. Ils sont très matures, sont très ouverts et ils entendent, ils voient vraiment beaucoup plus que la majorité des enfants. Donc, c'est un peu triste ou c'est pas le fun de voir les enfants souffrir, mais en même temps, ça apporte un aspect très intéressant à leur personnalité, leur persévérance. Et je pense que ça fait des personnes très fortes dans cette société.
Ce qui vous a peut-être donné l'envie de vous impliquer, en fait, de créer la Fondation Pivot qui permet l'autonomie des jeunes handicapés au Nicaragua, si je me trompe
oui,
pas.
Oui, c'est exactement ça. Bien, justement, je me suis impliquée longtemps avec la Société d'arthrite. J'ai été coordonnatrice du camp Articulation pour enfants atteints de, oui, maladies rhumatologiques. Et aussi, justement, cette empathie-là, cette envie de voir les enfants moins souffrir ou au moins pouvoir partager quelque chose dans leur souffrance et pouvoir transformer ça en quelque chose de positif, mm-hmm, ça m'a motivée à créer cet organisme-là, exactement.
Diane, je vois votre beau sourire. Vous êtes contente de votre porte-parole. Elle est extraordinaire.
Oui, on l'adore. Mais
quel
en
pif!
Plus, oui, C'est une jeune qui est géniale, on l'adore. Et en plus, on a travaillé avec elle 2 ans aussi. Elle a travaillé comme coordonnatrice de notre camp pendant 2 ans.
Ce camp Articulation du 24 au 30 juillet, je vous envoie déjà là-dessus parce qu'il reste peu de temps, Diane. Mm-hmm. Quel est ce camp?
C'est un camp pour les jeunes qui sont âgés de 8 à 16 ans. Alors, c'est une semaine complète d'activités adaptées à leurs conditions, mais aussi sous surveillance médicale. Donc, il y a un rhumatologue sur place et des infirmières. Et ils sont entourés de jeunes, ça leur permet de faire des choses avec les jeunes qui sont atteints de la même maladie et de ne pas avoir de préjugés autour d'eux. Tout le monde comprend. On a aussi un camp répit qui est tout nouveau cette année d'un week-end, le 27 et 29 mai à Saint-Thomas, je crois, dans la région de Québec. Ça aussi, c'est nouveau. Donc, un week-end, la même chose, 8 à 16 ans pour les jeunes qui veulent s'inscrire. Ils peuvent aller sur le site arthrite.ca/QC pour Québec. Mm-hmm. Et vu que c'est le mois de l'arthrite juvénile, on a une visioconférence le 18 mars aussi ce vendredi dans une quinzaine de centres hospitaliers à travers le Québec à 18h30. Les gens aussi peuvent aller sur notre site arthrite.ca/QC pour avoir les informations. Donc, Montréal, Québec, Québec, Sherbrooke, Drummondville, Gaspé même et la Côte-Nord. Mm-hmm. On en a un peu partout. Oui.
Une rencontre provinciale aussi le 29 octobre. Mm-hmm. Et j'imagine que l'objectif qu'il y a toujours derrière la tête de votre organisation, Diane, c'est de trouver enfin un remède pour l'arthrite juvénile.
Oui, c'est sûr. On n'est pas encore à ce point-là. C'est difficile à trouver ce qui cause l'arthrite parce que pour trouver un remède, il faut trouver la cause. Mais les médecins sont là-dessus et il y a beaucoup de développement en ce moment dans la recherche en arthrite, effectivement. Et la rencontre, comme vous le mentionnez, c'est au Palais des congrès à Montréal, mais ça concerne pas seulement l'arthrite juvénile. C'est vraiment 50 conférences sur l'arthrite en général et les gens sont invités. Il y a aussi une formation continue pour les professionnels de la santé.
On fait quoi pour vous aider?
Arthrite.ca, puis donner sur le point. Il y a un bouton pour ça aussi, pour nous donner.
Certainement, on dirigera les gens, nos auditeurs, vers votre site.
Si je peux ajouter une chose, on commence aussi une campagne pour l'arthrite juvénile. On a sur les réseaux sociaux le hashtag « Cancan pour le camp ». Alors, les gens peuvent faire danser le cancan, donner 10 $ et demander à 5 de leurs amis de donner.
Chouette comme tout. Diane de Bonneville, je le rappelle, vous êtes responsable des communications à la Société de l'arthrite. Simone Cavano, porte-parole des jeunes atteints d'arthrite juvénile. Ben, bon succès dans vos études. Vous étudiez à McGill endroit. Oui. Puis, très, très heureuse d'avoir fait votre connaissance, Simone.
Merci, vous aussi.
Merci.
Merci Jean-Sébastien Laliberté. Il est derrière sa console, toujours si attentif. Je vous salue, c'est Marianne Paquette derrière le micro. On se redonne rendez-vous demain, 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.